Plateau Sport. Plateau Sport, ce sont les grands reportages, les découvertes, les dossiers, c'est savoir plus sur les thématiques sportives.
Le sport, retenons-le, est une science. Quand on n'a pas fait cette démarcation, on ne peut pas savoir ce qu'engrange le sport.
Plateau Sport, c'est aussi les grandes interviews vérités, les gros plans, l'éclairage sur toutes les questions en lien avec le sport, d'ici et d'ailleurs.
Ce que nous attendons du mouvement sportif, c'est vraiment un changement de mentalité.
Plateau Sport, c'est 30 minutes pour tout comprendre et tout savoir. Présentation, César Yao.
Nous sommes avec Félix Hervé Carole ou Fouette Bouvoigny, développeur web ici à Radio de la Paix. Il a écrit un livre, Coupe d'Afrique des Nations 2023, un livre souvenir. Pourquoi un livre, Félix, sur la dernière CAN ivoirienne notamment?
Très bien, je me suis dit qu'au soir de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce serait une idée très pertinente de... d'écrire un livre qui relate tous les souvenirs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'événement footballistique le plus important sur le continent africain et ce fut un honneur et une joie pour tous les supporters ivoiriens, moi y compris, pour accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été placée sous le signe de l'hospitalité. On devait montrer au monde entier ce que c'est que l'hospitalité à l'ivoirienne, notamment envers nos frères africains. Et puisque une image vaut mille mots, c'était vraiment important d'ajouter des photos marquantes de cette compétition-là.
Alors, vous êtes parti d'un point A à un point B, sans oublier les points suivants jusqu'à point Z, pour décrypter effectivement ce succès, le fruit de l'union, de la discipline et du travail que vous avez fait ressortir dans le courant de ces livres-là.
Oui, c'est bien ça.
Alors, vous avez parlé effectivement du pays organisateur, okay, la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous avez présenté la Côte d'Ivoire, pays organisateur?
La manière dont j'ai présenté la Côte d'Ivoire en tant que pays organisateur, je me suis focalisé sur la présentation des villes où se déroulaient les matchs, à savoir Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Sachant qu'Abidjan, il y avait le stade des Bimpe et le mythique stade Félix Houphouët-Boigny. Tous ces stades ont été soit reconstruits, ce qui était le cas du stade des Bimpe, ou soit rénovés. Il y a aussi des stades qui ont été construits également à San Pedro et à Korogo. Par rapport à 1984, il n'y avait que deux stades où se déroulait la compétition. Mais à cause des cahiers de charges de la CAF, on était obligé d'avoir six stades de compétition.
Vous les avez présentés dans leur splendide habit, parce que vous l'avez dit, Félix, d'autres qui ont été construits, d'autres ont été rénovés, tout ça pour le plaisir du public sportif de la Côte d'Ivoire également. Vous avez parlé des groupes. Quel est ce stade-là qui vous a le plus marqué dans son organisation, dans sa recomposition, dans son finish?
Bon, le stade qui m'a le plus marqué, j'en ai à peu près plusieurs. Tous les stades, de toute façon, m'ont marqué.
Ah ouais?
Oui. Commençons par la ville d'Abidjan. Le stade d'Alassane Ouattara des Bimpe, c'est vraiment un stade qui a été construit pour l'occasion. On n'avait plus jamais fait ça en Côte d'Ivoire depuis nombre d'années. Ensuite, le mythique stade de Félix Houphouët-Boigny qui a été tout beau.
Parler dans le micro.
Oui. Tout beau, tout neuf, aux normes de la CAF. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu un stade tout rénové. Je me suis rappelé du nombre de fois où on était obligé de le fermer pour le remettre à niveau. Et là, c'était une mise à niveau tout à fait moderne. Assez comparable à ce qu'on voit en Europe.
Alors, je suppose que vous êtes déplacé de temps en temps pour suivre, n'est-ce pas, certaines rencontres. Vous êtes allé à Yamoussoukro, à San Pedro, à Krogo, à Bouaké, et puis les stades ici à Abidjan, le public sportif, comment est-ce que vous le colorez, vous le décrivez?
Ça, c'est le public sportif. Au début, on critiquait le public sportif d'être assez passif, de regarder le spectacle. Mais ce qui m'a marqué au fil de la compétition, c'est surtout à partir du fait que les éléphants soient qualifiés pour les huitièmes de finale. Là, le public a commencé à donner plus de la voix. Et ce qui m'a marqué, c'est la fois où le public ivoirien a chanté l'hymne national dans le match contre le Mali.
Avant d'arriver au match contre le Mali, dans votre livre, effectivement, vous avez présenté les huitièmes de finale. Oui. L'une de ces rencontres-là s'est déroulée à Yamoussoukro, Sénégal, Côte d'Ivoire.
Oui.
Comment est-ce que vous le décrivez dans votre livre?
La manière dont c'est à partir de là où le miracle des éléphants de Côte d'Ivoire a commencé. Il faut dire que pendant le match, c'était plutôt mal embarqué puisque les Sénégalais ont marqué. Et puis les Sénégalais auraient pu doubler la mise, surtout face à une occasion de Sadio Mané où j'ai failli avoir des frissons. Mais il a fallu un pénalty pour que
rétablir l'équilibre de la terreur.
C'est ça, oui, pour que Franck Kessié puisse marquer ça. Mais la décision appartenait aussi à la VAR. Sans la VAR, on n'aurait pas eu ce genre de pénalty. Bon, et là aussi, la séance de tir au but. Il y avait quand même quelques frissons et finalement on l'a emporté. Et ce huitième de finale était tellement important puisqu'il s'agissait du Sénégal, tenant d'Afrique, tenant du titre en Afrique, et qui avait remporté ses trois premiers matchs dans la phase de groupe.
Alors, il y a eu un autre match dont certainement vous avez été témoin et que vous racontez dans ce livre-là, le match qui suivait, Côte d'Ivoire-Mali à Bouaké, avec un stade qui était, n'est-ce pas, tout feu tout flamme derrière les pachydèmes ivoiriens. Comment est-ce que vous le décrivez dans votre livre?
Bon, là aussi, c'est une équipe qui a montré de la détermination. Et qui a finalement l'emporté. Non seulement au niveau...
Allez-y.
Ah oui. Non seulement au niveau de la fin du match, à la 90e minute, c'est Simon Ndingra qui vient de marquer le but. Ça a galvanisé un peu plus ses joueurs. Et surtout, le but le plus tardif de l'histoire de la Coupe d'Afrique, qui a été inscrit par Oumar Diakité.
Alors là, dans votre livre, je vois la page 174, le miracle des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, le miracle, selon vous, est partir d'où et comment?
Bon, à partir de la fin de la phase des groupes. Parce que se faire humilier à domicile par la Guinée équatoriale 4-0... les joueurs étaient démoralisés et tout ça. Et puis, il a fallu attendre deux jours pour savoir si les éléphants passaient en huitième de finale. Beaucoup de gens, surtout l'ancienne génération, avaient en mémoire l'élimination au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations en 1984. Et donc, tout le monde avait peur que ça soit la même chose que ce qui se passait en 2023. Mais fort heureusement, il y avait la règle des meilleurs troisièmes et la Côte d'Ivoire a pu se qualifier malgré le fait que la Côte d'Ivoire ait encaissé un score lourd et avec une différence de but négative.
Alors, dans votre livre, à partir de la page 180, vous avez parlé des héros ivoiriens, en la personne de Sébastien Allaire, avec un retour gagnant, et de Simon Ndingra, la révélation.
Oui. Sébastien Allaire est marquant. Non seulement il venait de survivre à un cancer, c'est une grave maladie, mais aussi, au début de la compétition, il était blessé. Et il a dû assister impuissant à la défaite contre la Guinée équatoriale. Mais heureusement, au huitième de finale, il a pu entrer. Il a pu apporter à chaque fois un impact au niveau de l'équipe nationale. Mmh. Non seulement contre le Congo, il a marqué un but qui a surpris le gardien, et surtout, je n'oublierai jamais le but qu'il a marqué contre le Nigeria en finale qui a donné la coupe à la Côte d'Ivoire.
Mmh. Alors, vous avez parlé également, en tant qu'héros de Emerson Faye, de la rescousse à la gloire.
Oui.
Comment et pourquoi, selon vous ?
Voilà. Suite à la, tout le monde se souvient que Jean-Louis Gasset était l'entraîneur pendant le premier tour, mais il a dû démissionner à cause de la défaite contre la Guinée équatoriale.
On l'a poussé à la porte, bien, il a démissionné, selon vous. Dans votre livre, vous dites quoi sur lui, notamment ?
Qu'il a démissionné.
D'accord.
Et on a dû appeler Emers Faye pour conduire l'intérim jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Mmh. Et donc, il a fait beaucoup de changements tactiques, notamment en mettant Jean-Michel Seri au milieu, et aussi en mettant sur le banc Franck Caissier, surtout le match contre le Sénégal. Donc, il a dû renforcer le milieu de terrain et renforcer la défense avec Odilon Kossounou.
Alors, dans votre livre, est-ce que les supporters ont été absolument nécessaires, voire apolitiques, dans la victoire finale des Ivoiriens ? Parce que dans votre livre, il est bien coloré avec ses supporters ivoiriens-là.
Oui, de toute façon, que ça soit que les supporters soient d'un tel ou tel courant politique, avant tout, c'est
le football. Je parlais de l'apport, du soutien indéniable qu'ont eu les Ivoiriens par rapport à leur public, ça leur a donné un plus, une plus-value, effectivement.
Oui, quel que soit le bord politique, on est tous derrière les éléphants.
D'accord. Alors, vous avez fait préfacer votre livre par un monsieur que nous connaissons très très bien. C'est qui, de qui je veux parler ? Parce que c'est vous qui avez fait ce livre-là,
oui,
à
c'est
la préface.
Monsieur, oui,
Amicha.
Oui, monsieur François Amicha.
Et pourquoi c'est lui ?
Puisque c'était lui qui était à la tête du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations.
C'est ça.
Voilà, et que c'était une personne.
Vous auriez pu choisir quelqu'un d'autre, le président de la FIF ou le vice-président, ou pourquoi spécialement, exclusivement François-Albert Amicha ?
Bon, François-Albert Amicha, comme je l'ai dit, c'est lui qui était à la tête de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations.
Il était chargé du COCAN, oui.
Oui, c'est ça. Donc, on voulait prendre une personne clé dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations.
Une cheville ouvrière.
Oui.
Alors, dans votre livre, surtout à la page 194, vous avez présenté certaines célébrations et félicitations, surtout quand les éléphants ont été reçus, n'est-ce pas, au palais présidentiel.
Oui.
Qu'est-ce que vous écrivez là-dessus, sur cette partie exactement ?
Sur cette partie, je montrais surtout les photos de la décoration des joueurs par le président de la République et dans le palais présidentiel. Et d'ailleurs, cette décoration était retransmise en direct à la télévision. Donc, tout le monde regardait ça.
Est-ce que ça a été pour vous, cette CAN 2023, une CAN véritablement et profondément celle de l'hospitalité ? Et comment est-ce que vous en parlez dans votre livre ?
Bon, dans mon livre, il y a plusieurs images de supporters algériens et marocains qui remercient la Côte d'Ivoire pour l'hospitalité. Et d'autant plus qu'il y a eu d'autres supporters d'autres équipes, non seulement les pays limitrophes à la Côte d'Ivoire, mais aussi le reste de l'Afrique, qui étaient venus en Côte d'Ivoire pour suivre la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, ils ont été généralement bien accueillis.
Est-ce que cette CAN 2023, dans le contenu de votre livre, comment est-ce que vous la décrivez comme la CAN du siècle ?
Je pense que cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la Coupe d'Afrique des Nations du siècle.
Pourquoi ?
Parce que...
Comment ?
Oui. À cause
pourquoi d'abord ?
À cause du niveau de jeu spectaculaire qui a été donné notamment par les équipes d'Angola, du Cap-Vert, peut-être de la Mauritanie. Et aussi le parcours miraculeux des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça, personne ne va oublier. Notamment à cause du fait qu'une équipe classée parmi les meilleurs troisièmes dans une Coupe d'Afrique des Nations réussisse à aller jusqu'au bout pour remporter la Coupe d'Afrique à domicile. Non, et aussi la qualité des pelouses, la qualité des stades, et aussi l'impact au niveau de l'audiovisuel dans le monde, puisque ça a été donné qu'il y a eu 2 milliards de téléspectateurs qui ont pu suivre la Coupe d'Afrique des Nations.
Alors, vous avez parlé également à la fin de votre œuvre des entraîneurs qui étaient sous pression, notamment d'Avram Grant de la Zambie, de Djamel Belmadi de l'Algérie, de Pedro Gonçalves de l'Angola, d'Amir Abdou de la Mauritanie, de Rui Vitoria de l'Égypte et puis d'Emers Faye de la Côte d'Ivoire.
Donc, ce sont des photos qui ont été prises sur ces entraîneurs-là. C'est pour montrer l'intensité qui se lisait sur leur visage pour donner des consignes, surtout aux joueurs. Donc, et aussi les moments où ils réfléchissent à une tactique à adopter.
D'accord. Alors, vous parlez également des buts. Quels sont les buts qui vous ont le plus bouleversé positivement?
Oh là là, ça...
dont vous faites allusion dans le livre.
Oui. Donc, c'est surtout la célébration de Mabouloulou, le joueur angolais, qui se comportait comme un lion. Il y a aussi Mostafa Mohamed, qui croise ses bras comme les pharaons d'Égypte. Il y a aussi les joueurs congolais qui ont dansé l'hymne officieuse de la Coupe d'Afrique des Nations, à savoir le coup du marteau. Et en plus, il y a eu, et même en regardant des vidéos de joueurs qui sont extérieurs à Côte d'Ivoire, il y a certains qui dansaient le coup du marteau. J'en ai vu au sein de la Juventus de Turin en Italie, qui dansaient le coup du marteau. Donc ça a vraiment eu un impact à travers le monde.
Et le garde à vous de Franck Kessier?
Ah non, ça...
Et puis tu l'oublies, hein, alors qu'il est décrit dans votre livre.
Ah non, pas du tout, je n'ai pas oublié.
Puisqu'il est à la page 208.
Oui, donc c'est un salut militaire qu'il fait à chaque fois qu'il marque un but.
Au garde à vous.
Oui, puisque son père était gendarme. Et aussi, il a fait ça en finale.
Alors, quels sont, selon vous, vous présentez certaines stars, notamment des Haller, on en a parlé, Emilio Nzoué, de l'équipe La Terrible Formation Équato-Guinéenne, des Ademola Lookman du Nigeria, des William Trossé-Kang du Nigeria, sans oublier le Sénégalais Lamine Camara.
Oui, donc ce sont des joueurs qui ont prouvé pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, dans l'histoire de cette compétition, on n'a jamais vu un joueur équato-guinéen finir meilleur buteur. C'est vraiment inédit dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations.
Alors, on va vers la fin du livre avec la CAN des autorités ivoiriennes. À qui faites-vous allusion notamment?
Je fais allusion au Premier ministre, mais aussi au Président de la République. Et aussi au président de la CAF, Patrice Motsepe, en tant que président de la CAF. Et pour une rare fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, on a un secrétaire d'État américain qui vient assister à un match de football. Je parle d'Anthony Blinken. D'ailleurs, il a reçu un maillot avec son nom derrière. Il a suivi le match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. Et aussi, le président de la FIFA était là.
Infantino, Guyane et Infantino.
Oui.
Quels ont été leurs rapports? Vous les avez cités dans votre livre, notamment d'abord le président ivoirien. Quel a été son apport numérique?
Son apport, eh ben, au niveau de l'investissement.
Exactement.
L'investissement que le gouvernement ivoirien s'est consenti pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations, non seulement dans la construction ou la réhabilitation des stades, mais aussi pour les terrains d'entraînement, mais aussi pour l'hébergement et ainsi de suite. L'hébergement au niveau des hôtels des cités CAN, notamment à Korogo.
Alors, nous poursuivons parce qu'on va finir. La CAF, est-ce que la CAF était à l'honneur ou bien c'était la Côte d'Ivoire qui était à l'honneur lors de cette CAN-là?
Bon, dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAF devait être à l'honneur. Oui. Donc, notamment le président Patrice Motsepe et puis tout le staff. D'ailleurs, pour la distribution des billets, la CAF était aussi présente.
Alors, on va finir maintenant. Je rappelle que nous sommes avec Félix Hervé, Carole Oufouet-Boigny, développeur web art ici à Radio de la Paix. Il a écrit un livre sur la CAN 2023, livre souvenir, édition FHB, avec 220 pages sorties, n'est-ce pas, en décembre 2024. Vous, personnellement, individuellement, pris comme une personne humaine, la CAF, la CAN vous a apporté quoi? Au point d'écrire
oui.
sur la compétition oui. 2023.
Eh bien, avec ce qui m'a, c'est ma passion pour le football mmh. et aussi l'idée de bien présenter la Côte d'Ivoire, mmh. notamment une inspiration de livres concernant d'anciennes coupes du monde mmh. ou bien d'euro, et aussi le magazine 11 mondial. Mmh. Bon. Vu que le public cible, c'est l'Europe et puis le monde, mmh. et que ce sont des journaux français et européens, donc ce serait bien que ça soit aussi le tour de l'Afrique de faire ce genre de livre. Mmh.
Votre livre, il est pittoresque, très coloré, mmh. mais alors pourquoi ?
Bon, vous savez, la culture africaine est vraiment colorée, je voulais refléter ça dans le livre. Mmh.
Alors, on finit cet entretien, on retient quoi de votre œuvre, votre si beau et nouveau bébé?
Oui. Bon, en tout cas, c'est une œuvre mmh. Qui devrait être un classique mmh. pour se souvenir de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai interrogé certaines personnes à savoir s'ils vont oublier cette compétition. Elles m'ont affirmé que non.
Attendons les autres éditions, on ne sait jamais.
Oh, bah. Bon, les autres éditions, je ne vais pas les négliger.
Oui.
Mais celle-là. Notamment dans.
C'était tête... chez nous, et donc.
Oui, et mmh. donc, non seulement c'était en Côte d'Ivoire, mmh. mais et aussi l'impact énorme qu'il y a eu avec 24 équipes, mmh. ça fait moins de la moitié du continent africain. Avant 1992, les Coupes d'Afrique des Nations, il n'y avait que 8 équipes. Donc, c'était les équipes les plus solides qui y allaient. Hein. Mmh. Notamment en 84, il y avait le Cameroun avec un certain Roger Milla. Mmh. Donc on sait que Roger Milla, c'est un joueur que beaucoup de gens le connaissent et mmh. c'est pas n'importe qui. Mmh. Donc l'impact médiatique n'était pas aussi important mmh. que maintenant. Mmh. Maintenant, avec les médias sociaux, les journalistes qui viennent sur le continent africain pour couvrir cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, c'est devenu très important.
Alors, avec ce livre, est-ce que vous avez l'impression d'être fier, oui, fier d'avoir contribué à la promotion du football en Côte d'Ivoire à travers, n'est-ce pas, ce trophée 2023?
Oui, je suis fier de faire la promotion du football ivoirien dans cette année 2024.
Alors, je rappelle que vous êtes le petit-fils de l'ex-président ivoirien, Félix Oufouet-Boigny. Vous vous en portez d'ailleurs le nom. Oui. Alors, est-ce que cela vous suit aujourd'hui?
De toute façon, les noms de famille, ça se suit jusqu'à la fin. Mm-hmm. Donc, ce nom va me suivre.
Et vous allez le supporter, quoi qu'il advienne.
Bien entendu.
D'accord. Alors, on boucle cet entretien de Félix Hervé Carole Oufouet-Boigny, petit-fils de feu. Félix Oufouet-Boigny, développeur web ici à Radio de la Paix. Il a écrit un livre sur la CAN 2023, un livre souvenir édition FHB, page 220 pages, sorti, n'est-ce pas, le 24 décembre dernier. Votre dernier mot, c'est quoi, Carole?
Bon, mon dernier mot, c'est si vous voulez vraiment vous souvenir de la Coupe d'Afrique des Nations, regardez, lisez ce livre-là.
Où est-ce qu'on peut s'en procurer?
À la FNAC et aussi à la librairie Carrefour, près de l'église Saint-Jean à Cocody.
Et ceux qui ne sont pas à Abidjan, ils font quoi?
Pour le moment, ils se déplacent.
Il n'y a pas un réseau de distribution?
Nous sommes en train de l'étudier.
D'accord. Ça y est, c'est un pending. Il y a un autre terme, là, vous parlez des chiffres, des statistiques, non, je crois?
Oui, c'est bien ça.
Et ça va sortir bientôt.
Oui, ça va sortir bientôt.
Allez, merci infiniment. Et donc, mon cher ami, mon collègue ici à Radio de la Paix, Félix Hervé Carole Oufouet-Boigny, développeur web ici à Radio de la Paix, nous épiléguions sur son livre CAN 2023, livre souvenir, avec récemment sa sortie le 24 décembre dernier avec 220 pages. Merci Félix et à très bientôt sur Radio de la Paix.
Hein. Merci beaucoup. Au revoir.
À bientôt.
Plateau Sport. Plateau Sport, ce sont les grands reportages, les découvertes, les dossiers, c'est savoir plus sur les thématiques sportives.
Le sport, retenons-le, est une science. Quand on n'a pas fait cette démarcation, on ne peut pas savoir ce qu'engrange le sport.
Plateau Sport, c'est aussi les grandes interviews vérités, les gros plans, l'éclairage sur toutes les questions en lien avec le sport, d'ici et d'ailleurs.
Ce que nous attendons du mouvement sportif, c'est vraiment un changement de mentalité.
Plateau Sport, c'est 30 minutes pour tout comprendre et tout savoir. Présentation, César Yaourt.